me trompe et c'est un mort plus en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et les flics qui flinguent de glace.
Les flics, la police, les flics.
Et par des keufs se font paner, c'est connu, dans le Parisien t'as que les histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi. Vois du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Bonjour, donc vous écoutez l'émission Le Numéro Zéro sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne. Nous sommes le jeudi 2 avril, il est midi 2 dans 2 secondes et cette émission sera rediffusée à 17h. Voilà. Donc Le Numéro Zéro, c'est une émission d'information alternative, indépendante, participative, etc. Vous pouvez nous envoyer vos informations ou nous contacter sur une adresse email emissionradio@fastmail.net, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez aussi, bien entendu, consulter le site du numéro zéro, site d'information toujours indépendante et collaborative et participative. Donc le site, c'est http://lenumerozero.net. Voilà, aujourd'hui, au sommaire, nous avons diverses petites choses croustillantes. Donc, on va commencer tout de suite avec les brefs du désordre local en direct de la cave par notre envoyé spécial dans la cave. Ensuite, on fera un petit point sur la grève à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Ensuite, notre correspondant local du punk rock et de la noise fera des brèves qui ne parleront pas de punk rock, je pense. Mais voilà, nous aurons des brèves. Et ensuite, on aura une interview de Salima et Muriel, qui sont des habitantes de Moreno, qui se mobilisent contre les antennes relais installées par Bouygues sur leur tête, au-dessus de leur tête, sur les bâtiments de Moreno. Voilà, donc elles se mobilisent contre et elles en parleront. Et puis, enfin, après ce menu déjà assez chargé, nous ferons un petit agenda avec tout ce qui se passe d'intéressant dans le coin à notre connaissance bientôt. Voilà, donc on peut tout de suite enchaîner avec les brèves du désordre local.
Et à présent, passons en revue les brèves du désordre local, celui qui a eu lieu au cours du mois de février dernier. Chaque jour, généralement dans la rubrique « Faits divers », la presse locale rend compte des actions des combattantes invisibles de l'anti-France et de leur déboire. Et souvent, il n'est même pas besoin de savoir lire entre les lignes. Mais qu'est-ce donc que l'anti-France, me direz-vous ? Eh bien, l'anti-France n'existe pas, elle est dans l'air, c'est pourquoi elle est partout. L'anti-France n'a pas de revendication car elle est encore vivante. L'anti-France est en fait une section de l'anti-monde. Pour commencer, parlons de cette activité de service public qui consiste à produire des ruines et des cendres. La vallée de l'Onden brille de mille feux. Dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 février, deux voitures s'enflamment alors que la veille et l'avant-veille, c'était trois voitures qui avaient éclairé le week-end. Un bilan provisoire indique qu'en moins de 2 mois, 38 voitures ont été incendiées dans l'Onden, dont 18 à la Ricamari. À la Talaudière, le 11 février, un homme de 21 ans est passé en procès, accusé d'avoir ramassé 2 paquets dans la cour de promenade de la maison d'arrêt au mois d'octobre dernier. Ces fameux paquets contenaient un téléphone et des saucisses. Il est relaxé. C'est tellement la merde en prison que ça vaut le coup de faire passer clandestinement de la bouffe au même titre qu'un téléphone ou qu'un petit bout de shit. Dans la soirée du mardi 9-10 février, vers 21h, 6 voitures brûlent dans les quartiers de Chavassieux et de Côte-Chaude, qui pour une fois portent bien son nom, plus une autre caisse dans le quartier du Grand Clos. 2 personnes de Côte-Chaude de 17 et 18 ans sont interpellées. En effet, les flics estiment que leurs vêtements sentent l'essence. Surtout, il ne faut voir aucun lien entre ces événements et la mort de la personne en scooter, originaire de Côte-Chaude, renversée par une voiture de keuf, devant Centre 2, dans la soirée du 5 février. Le dimanche 15 février, au matin, à la Talo, une tentative d'évasion quasiment à l'ancienne. À l'intérieur, une fausse bagarre pour détourner l'attention des matons et des grillages sectionnés pour atteindre le mur d'enceinte. À l'extérieur, un complice qui monte en haut du mur pour faire descendre une échelle de corde. On ne saura peut-être jamais qui voulait se faire la belle, car la tentative échoue et le complice extérieur se blesse en redescendant du mur. Il est interpellé à l'hosto, mais refusera de dire qui il était venu chercher. Le 18 février, vers 1h du mat, à Briennon, au nord de Roanne, 2 4x4 en fait, partent en fumée. À Planfoy, dans la nuit du 17 au 18 février, toujours, le tagueur Cham a retourné le village en posant sur tout ce qui pouvait servir de support. Il est interpellé le lendemain et passe en procès en comparution immédiate. La merde de procureur demandait 1 mois de prison ferme. Le tagueur est finalement condamné à 140 heures de tige, plus une grosse amende de 5000 euros pour les indemnisations. Mais la vraiment grosse merde de procureur a fait appel de ce jugement. La vallée de l'Onden brille de 1000 feux de le retour. Une semaine après la première édition, dans la nuit du samedi à dimanche, rebelote, mais en mieux. 8 voitures, plus une camionnette, plus une benne à verre flambe au Chambon Feugerolles, mais aussi 5 voitures incendiées à la RIC et 1 à Firminy. Dimanche, dans la journée, ce sont en plus 3 voitures qui sont incendiées à la RIC pour rattraper le mauvais score de la nuit. Les flics sont sur les dents, mais surtout à la rue. Ils arrêtent 4 personnes, mais sont obligés de les relâcher le lendemain. Impossible de leur mettre quoi que ce soit sur le dos. Décidément, ma parano me dit qu'il se passe des choses dans ce coin et qu'ils ont du mal à le cacher complètement. Une hypothèse toutefois. Tout ce tapage pour souhaiter la bienvenue au nouveau préfet, M. Soubollet, qui a pris ses fonctions le lundi 24 février. Après les joies du feu, passons à l'univers merveilleux du monde du travail et de ses petites vicissitudes, une partie que l'on pourrait nommer « vivre en combattant » ou « mourir en travaillant ». Le 4 février, c'est le 8e jour de grève des 8 salariés du magasin de fringues Fabio Lucci à Montieu. Les revendications portent sur une augmentation de salaire, un 13e mois, une prime pour des conditions de travail difficiles et une prime de transport. On ne le dira jamais assez, mais la lutte armée paye, même en France. Le 7 février, à Saint-Just-en-Chevalet, une fois de plus, la victime est un chasseur qui s'est tiré lui-même une balle dans la main alors qu'il était dans sa voiture. Lundi 16 février, les facteurs et les factrices du Mont-Brisonnet débutent une grève suivie par les 2/3 des agents. Ils et elles se battent pour leurs conditions de travail, notamment sur la question des horaires et de l'organisation des tournées. Le mardi 17 février, dans la zone industrielle de Préchâteau à Saint-Cham, une explosion survient dans la société Alcom. C'est une société de fonderie. Deux ouvriers étaient en train de vérifier une pièce de fonderie en alu sous pression air et eau, lorsque le tout leur a pété à la gueule. Un des deux ouvriers de 40 ans est mort sur le coup. Son camarade, âgé de 51 ans, est mort le lendemain à l'hosto. Quand on arrive de Saint-Thé à Lyon par l'autoroute et qu'on rentre dans le centre-ville, on peut voir sur la droite cet immense chantier mégalo qui vise à construire un quartier de loisirs et d'affaires que les démagos de Kennedy ont appelé « confluence ». Les idées de merde ont souvent des conséquences dégueulasses. En revanche, c'est rarement ceux qui les font sortir de leur tête qui trinquent, mais bien souvent ceux qui les font sortir de terre. Bref, après l'électricien mort sur le chantier du Zénith de Saint-Thé, le musée Confluence de Lyon aura lui aussi son mort. En effet, le 18 février, un engin de chantier bascule par accident au fond d'une excavation. Malheureusement, il y a deux personnes qui travaillent au fond de ce trou et ils se prennent l'engin sur la tête. Le premier ouvrier, âgé de 45 ans, meurt sur le coup, tandis que le deuxième, grièvement blessé, est transporté à l'hosto. À titre d'information subsidiaire, on peut signaler que l'entreprise responsable de ce chantier est BTP Eiffage. Allez, c'est fini pour cette semaine, on recommence la prochaine fois dans pas trop longtemps. Mais en fait, nous ne sommes même pas obligés d'attendre jusque-là, car tout ceci, en fait, c'est arrivé près de chez vous.
Quittons le direct de la cave pour rejoindre donc les studios de Radio Dio sur le 895 FM et en stéréo.
Voilà qui continue, donc ça fait que je radote. Et nous en parlons à chaque fois parce que ces preneurs d'otages continuent leur grève. Ça fait maintenant plus de 2 mois qu'il y a une grève à l'université Jean Monnet contre des réformes qui sont déjà passées et qui sont appliquées, contre plein de trucs. Je vous en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas dessus cette fois. Ça fait 6 semaines que la fac est bloquée, c'est-à-dire que les étudiants grévistes et le personnel et d'autres gens occupent la fac, font en sorte qu'il n'y ait pas de cours pour pouvoir mener à bien leur grève. Et il s'y passe plein d'activités très intéressantes, souvent plus intéressantes d'ailleurs que les cours habituels. Voilà, donc juste quelques nouvelles assez brièvement. Comme toutes les semaines, mardi midi, qui vient le 31, c'était, à 14h, pardon, il y avait une assemblée générale étudiante pour débattre de la grève, de ses raisons, se donner des infos et prendre des décisions sur la suite du mouvement. Dans cet AG, on déboulait un sacré paquet de gens complètement opposés à la grève. Donc, bien entendu, ils sont les bienvenus, eux aussi. Mais sauf que là, c'était un peu plus houleux, vu que ces gens étaient de l'UNI Lyon. Donc, simplement pour rappeler, l'UNI, c'est un... Donc, ils ne veulent pas être appelés syndicats, c'est une association de droite. C'est la droite étudiante, donc qui soutient très fermement le gouvernement. Et même s'ils n'aiment pas qu'on le dise, ont tendance à fricoter de temps en temps avec des sombres uluberlus de l'extrême droite. Voilà, donc ils étaient présents pour foutre la merde, ils ont réussi. C'était houleux et le directeur de la fac a fait annuler cette assemblée générale. Une autre a été organisée hier à midi, que les grévistes ont boycotté et ils sont venus expliquer pourquoi. Parce que cette assemblée générale avait été organisée par le directeur de la fac. Contrairement à ce qui se fait normalement, c'est organisé par les grévistes et ouvert à tous et toutes. Donc bref, ça fait un sacré bazar et l'AG est reporté à ce lundi 14h. Espérons que ça se passera mieux. Voilà, donc sinon, que dire d'autre ? Toute cette situation-là qui a été un peu houleuse en début de semaine, elle est liée entre autres à, au stress des étudiants qui aimeraient reprendre les cours, etc. Mais ce stress étant amplifié par des messages de désinformation de la part de l'administration qui sème le doute et fait croire à une année blanche, à une annulation de l'année, etc. Alors il faut savoir que tout ça, c'est du chiquet et que les enseignants ont voté mardi, justement, plusieurs motions par lesquelles ils promettent et s'engagent à tout faire pour que les étudiants, grévistes ou non, ne soient pas pénalisés par cette grève. Donc arrêtez de vous inquiéter, faites la grève, rejoignez le mouvement joyeusement. Voilà, et si vous rejoignez le mouvement joyeusement, vous pourrez faire plein de choses. Donc entre autres, il se passe des actions, et puis il y a l'université solidaire qui continue. Donc je le rappelle, ce sont des interventions et des débats divers et variés. Je vous en dis juste quelques-uns pour la fin de la semaine. Aujourd'hui à 14h, un discours qui ne s'entend pas de Michel Bigot, retour sur le discours de Nicolas Sarkozy du 22 janvier. À 16h, un atelier qui s'intitule « Les personnels de l'université, réalité et conséquences des réformes actuelles ». Donc c'est pour discuter des conditions de travail de tous les personnels de l'université, qui ne sont pas que des profs. Et à 20h30, « Où va le service public d'éducation ?» par Monsieur Choukri Benayed, qui est prof à la fac. Voilà. Et aussi, si vous ne voulez pas que écouter et blablater, à 17h30 finalement, il y aura donc toujours aujourd'hui, jeudi 2 avril, donc 17h30, manifestation de la maternelle à l'université, ouverte à tous les gens qui soutiennent le mouvement, et qui démarrera du site de Tréfilerie, côté Grand Rue. Voilà. Et enfin, demain vendredi, à 19h30, une intervention d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Lordon, invité par Attaque Loire. Donc 19h30 en fiche J01 à Tréfilerie. Et cette intervention est intitulée « La crise financière et après ». Voilà, et donc tout ça va continuer la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'il y a une assemblée générale de Tréfilerie à l'amphi J01 lundi à 14h. Si une action que j'ai oubliée, hier matin, des grévistes sont allés bloquer l'arrivée des marchandises dans un entrepôt Easydis qui sous-traite pour casino. Voilà, ils sont allés discuter avec les routiers, enfin avec les transporteurs, avec les employés. Ils disent que ça s'est très bien passé et qu'ils referont probablement ça. Et enfin, écoutez, si vous voulez vous informer plus, je répète l'adresse du blog où les étudiants en grève mettent leurs infos. C'est ugm-en-lutte-saint-etienne.com. over-blog.com, UGM en lutte Saint-Etienne overblog.com. Voilà, mais surtout, déplacez-vous sur place pour aller vous informer. C'est pas toujours évident. Quand on connaît pas les gens, ça fait peur. Mais c'est quand même la meilleure manière de s'informer, discuter et participer au mouvement. Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Le pire n'est pas encore passé.
Dans cette émission, le fil conducteur, c'est justement l'absence de fil conducteur.
Ce que vous allez entendre vous paraîtra pratiquement inécoutable. On se bouche les oreilles.
La création de l'homme reporte non pas des millions d'années comme le disent les évolutionnistes, mais il y avait 6000 ans exactement, en 1872, que l'homme avait été créé.
Sans revenir sur les ignobles paroles du gourou de la secte européenne la plus influente, j'ai nommé son horreur le pape Benoît XVI, juste un petit mot pour ceux qui sont nés catholiques sans vraiment le vouloir. Juste pour vous dire, au passage, qu'en ce moment, la débaptisation connaît un grand boom. La débaptisation, en gros, ça consiste à demander au curton qui vous a éventuellement baptisé de vous rayer des registres de sa paroisse. Bon oui, après ça sert pas à grand chose, mais encore faut-il porter une importance à ce que ça représente. Pour la symbolique, ça fait toujours un fichage en moins. C'est pas très compliqué, suffit juste d'envoyer une lettre précisant la date de votre baptême, accompagnée d'explications ou de blasphèmes, c'est vous qui voyez. Après le PDG de Sony, François-Henri Pinault et le patron d'une usine 3M, c'est au tour de 4x4 de chez Caterpillar de passer par la case séquestration. Alors sur le papier, bon bah ça sent bon, c'est à la mode. Mais ça dure pas longtemps, et ça reste encore plutôt bon enfant. Alors, pourvu que ça dure et que ça aille un peu plus loin, comme par exemple quand en 82, les ouvriers lorrains d'Usinor, devant les pompiers qui fermaient les yeux, avaient fini par cramer le château de leur patron.
Cette année dans la crasse et les sept et les rues, il n'y avait pas de musique là-bas. Il suffit de regarder les gens s'entretuer, se faire violer, se piquer un héros dans le bras en pensant que des fumiers comme vous mènent des vies de milliardaires. Alors que les pauvres mènent des vies de cons. Je sais qui vous êtes. Tout ce qui compte, c'est que vous vous en foutiez plein les poches. Aujourd'hui, les pauvres qui vous ont enrichi vont gagner. Crains, ordures.
En ce moment, les rangs des pauvres grossissent à vue d'œil, rien n'est moins sûr. Les sorciers et autres voyants médiums en économie de notre belle république est tablé sur un chiffre de 282 000 chômeurs de plus en 2009. En 15 jours, ils ont changé leur prévision pour ramener ce chiffre à 350 000. Alors ça marche au pif au mètre, on dirait. Mais en plus, ces chiffres sont tronqués puisqu'ils ne prennent en compte que la catégorie 1, celle des chômeurs indemnisés qui cherchent un CDI à temps plein. À en croire d'autres sources, faudra plutôt tabler sur les 600 000 vu qu'il y en a déjà quasiment 200 000 de plus depuis le début de l'année. En attendant, on ne compte plus les retards de paiement, les radiations et autres complications. Le 3949, numéro du Pôle emploi, répond de plus en plus souvent aux abonnés absents. En attendant qu'ils délocalisent leur centre d'appel au Sénégal, ils se permettent en plus de surtaxer tous les appels que tu leur passes depuis une ligne autre que France Télécom. Gratter les chômeurs, c'est le business du moment.
Voilà notre problème, capitaine. Ces petits points lumineux sont des bulles de radiation.
EDF, avec le concours de la DST, s'est permis d'espionner et d'infiltrer le réseau Sortir du Nucléaire. Cette traque a mené à l'arrestation d'un militant, François Lhomme, qui risque jusqu'à 5 ans de prison pour compromission du secret de la défense nationale. Son seul crime, avoir dévoilé au public que le futur réacteur EPR n'est pas conçu pour résister à un crash d'avion de ligne. Le centre social autogéré de la Croix-Rousse est un endroit assez classe où ont lieu tout un tas d'activités gratuites ouvertes à tous et à toutes. Le but du centre, c'est de faire survivre l'esprit populaire de la Croix-Rousse, aujourd'hui en proie aux bobos, aux branchouilles, aux condés et autres touristes. Mais à Lyon, il y a aussi une autre sorte de faune encore bien plus répugnante, les fachos. Le samedi 21 mars, à la suite d'un concert de Chadumpo au CSA, 8 faf se sont pointés pour s'en prendre à un membre seul de l'Orga, en le rouant par la suite de coups, des coups de pied au sol. Il s'en est heureusement sorti grâce au soutien des jeunes du quartier, mais bon, c'est triste à dire, ces temps-ci, les fachos ont plutôt tendance à faire les beaux du côté de la Kennelly. Alors bon, s'il y avait moyen de les calmer une bonne fois pour toutes, ce serait pas plus mal.
Si vous n'attendez pas de cette émission qu'elle vous apporte un message, si vous préférez la musique à l'éloquence, si vous pensez que tout, et y compris la semaine, doit se terminer par des chansons, alors vous êtes les bienvenus parmi nous.
Eh bien oui, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission du numéro 0 sur le 895 de la bande FM, Radio Dio et en stéréo. Donc, alors maintenant, nous allons passer à une interview. En octobre 2008, commence une lutte contre l'installation d'antennes relais sur un immeuble de Loire Habitat à Montréno. Et nous avons rencontré Muriel et Salima qui reviennent un peu sur cette mobilisation. Une occasion pour elles aussi de réaffirmer leur refus de vivre sur des antennes relais, à un moment où, suite au conseil de quartier de Montréno le 19 mars, une proposition leur a été proposée, à savoir l'activation temporaire d'une partie des antennes déjà installées. Elles vont nous expliquer tout ça maintenant. À préciser que, quand même, au niveau du gouvernement, ça s'agite un peu, puisque le Grenelle de la téléphonie mobile et des antennes relais, initialement prévu le 26 mars, sera donc reporté au 23 avril suite au refus de la présence des opérateurs de téléphonie mobile. Et donc pour illustrer un peu l'ambiance que peut représenter ce genre de table ronde, eh bien François Fillon s'est permis de dire dès le départ que pour cette table ronde, il fallait ne pas parler des risques sur la santé liés aux antennes relais. Bonne ambiance. Alors on va écouter Salima et Muriel qui nous reparle de cette mobilisation.
Puis ils voyaient vraiment qu'on est mobilisé. Hein. Quand on a joqué, quand on a bloqué, quand même, on était de 6h du matin jusqu'à midi. Hein. Voilà, ils voient bien qu'on est mobilisé, quoi, je veux dire. Et qu'on lâchera pas jusqu'à la fin, quoi, je veux dire, c'est clair. Alors moi, c'est Salima. J'habite à Offenbach depuis 6 ans maintenant. Et je suis... au 8e étage du bâtiment.
Donc moi aussi, pareil, donc, je m'appelle Muriel, j'habite aussi au Offenbach. Voilà, ça fait 25 ans qu'on habite justement dans l'immeuble. Et donc on se voit aussi pour en faire enlever ces antennes relais. Donc la lutte elle a commencé dès octobre 2008. Que les gens sont mobilisés pour éviter que justement on mette ces antennes relais sur l'immeuble au Offenbach.
Vous avez été averti comment avant ?
Par courrier. On a eu une lettre.
Disons que suite déjà au courrier qu'on a reçu, on a fait une pétition pour dire qu'on n'était pas d'accord pour qu'il y ait une antenne relais sur le toit du bâtiment. Et cette pétition, il y a eu 200 signatures quand même. Oui. Hein, et puis cette pétition, elle est passée au travers, quoi, je veux dire, on n'en a pas tenu compte. D'où après l'installation d'une partie de l'antenne. À 50%.
À l'époque, c'était Guillaume qui s'en occupait justement, qui était le directeur de Loire Habitat. Donc il s'en était pas caché, que quand on lui avait remis justement la pétition, ça avait été directement empoigné. Hein. Donc elle a été vraiment pas prise en compte, la pétition.
Alors qu'ils avaient fait une enquête publique et des trucs comme ça
Fin 2006, début 2007, hein, que ça avait été fait déjà, donc les gens ne pensaient plus justement à cette installation d'antenne, hein. plus personne n'en parlait. Puis donc, entre-temps, après, ça a été relancé, c'est là qu'on a reçu justement les nouveaux courriers comme quoi ça annonçait qu'il allait avoir une installation justement sur le toit d'Offenbach.
En quoi ça consiste précisément une enquête publique?
Bah en fait, c'est juste une information, hein, c'est tout. Ah non, on ne demande pas notre avis, en fait. C'est une information disant, voilà, il y a un projet qui est déjà bien établi, puisque le projet, ça y est, a été décidé. On ne demande pas si on est d'accord ou pas. On nous informe, c'est tout.
Et vous étiez averti du jour où les ouvriers allaient venir installer les antennes?
Bah disons que quand, déjà quand ils ont averti au moins une semaine à l'avance déjà. Hein. Mmh. Ça n'a pas été fait de la veille pour le lendemain. Donc en une semaine, on a eu le temps d'aller frapper chez tout le monde, voilà, et de prévenir les gens déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas que c'était nocif. Ouais. Nous, c'est vrai qu'il y a une chose qui est sûre sur Offenbach, malgré qu'il y en a qui disent que ce n'est pas nocif, il y en a d'autres qui disent que si. Nous, pour nous, il y a un doute. Donc voilà. Plus qu'il y a doute,
incertitude.
Voilà, donc on n'en veut pas de cette antenne, ça c'est clair. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savaient même pas que c'était peut-être nocif. Donc il a fallu informer. On a pris contact tout de suite avec l'association Robin des Toits sur Paris. On était en lien, c'est notre locataire qui était en lien direct avec eux, puis qui nous ont aiguillés, nous ont dit ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire.
Les démarches effectuées, tout ça.
Voilà. Et donc à partir de là, quand on a été voir chaque personne, quand on a eu la date donc, de la grue, on a dit, voilà, la grue arrive tel jour, vous le savez, on bloque. Voilà. Il faut les empêcher.
Vous étiez combien du coup ce matin-là?
Une quarantaine. Hein.
Du coup, c'est à partir de ce blocage qu'il y a vraiment une discussion voilà. qui est.
Ouais, parce qu'ils voyaient que ça prenait une ampleur quand même qui était importante. Hein. Donc à ce moment-là, ils ont dû se dire bon, ben, là, ils n'ont pas l'air de vouloir lâcher. Quoi.
Et du coup, au niveau de la discussion, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Dès le départ, en fait, donc nous, comme on a été catégorique en disant qu'il était hors question que cette antenne soit sur le toit. De leur côté à eux, Bouygues Télécom, ils sont tenus de couvrir, ils n'ont pas le choix hein, de toute façon, puisque l'État leur impose quand même de couvrir 99% du territoire. Donc sinon, c'est sanctions financières, donc ils doivent couvrir sur Moreno. Eux, de toute façon, que ce soit sur le toit, que ce soit ailleurs, à la limite, ils s'en foutent, quoi, je veux dire. Hein. Il faut qu'ils posent leur antenne. Peu importe l'endroit, il faut qu'ils la posent. Donc il y a quand même eu un contrat qui était passé entre Bouygues Télécom et le bailleur Loire Habitat. Donc après, c'est pareil, le bailleur aussi, il était embêté parce qu'il ne pouvait pas, dès le départ, hein, ils ont dit leur habitat, ils ont dit qu'il était hors de question, qu'ils n'honorent pas leur contrat, et c'est normal, parce qu'après, je pense qu'ils auraient eu aussi des soucis. Et donc après, je pense quand même que c'est grâce à la mairie dès le départ, malgré qu'ils nous ont... On ne peut pas dire que la mairie est de notre côté, hein, puisqu'ils sont neutres, mais on va dire que la médiation, c'est grâce à eux, en fait. Nous, on a, quand il y a eu ce problème-là, ce qu'on a fait, on a quand même... Parce qu'il fallait qu'on se rencontre avec Bouygues Télécom, Loire Habitat... Et donc les élus, mais nous on a demandé qu'il y ait un expert qui vienne, parce qu'on ne s'y connaissait absolument rien sur les antennes relais, hein, à part que c'était dangereux, point, on n'était pas technicien, expert ou quoi que ce soit. On s'est dit que si on était en face de Bouygues, on ne pourrait pas répondre, quoi. Je veux dire, il nous fallait un expert, et c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait une quête, on a récolté de l'argent pour pouvoir payer l'expert, et c'est un expert du Mans, une scientifique hein, reconnue, hein, ça fait plus de 25 ans qu'elle fait des études sur les ondes électromagnétiques. Et donc, il y a eu une réunion avec notre experte, qui était de notre côté, bien sûr, parce qu'elle est anti-antenne relais sur les toits et proche des habitations. On n'est pas contre le progrès, on n'est pas contre les antennes relais, mais pas sur la tête des gens. Donc, il y a quand même un rapport qui s'appelle rapport bio-initiative, qui est sur Internet. C'est quand même un rapport où il y a quand même près de 1500 études qui ont été faites par des scientifiques, des chercheurs, des cancérologues. Tous disent que c'est dangereux. Et c'est tous les cancers, en fait. Vous avez le cancer des liquides, hein, le semi, et puis vous avez tous les cancers, hein, le cancer du cerveau, surtout le cerveau, parce que, portable, collé à la tête, je veux dire, d'un côté, on nous dit ça, de l'autre côté, c'est carrément les pro-antennes, ils disent que c'est pas dangereux du tout. Voilà. Donc,
Vous avez eu des experts qui disaient justement que l'amiante, c'était dangereux pour la santé. Il y a eu beaucoup d'experts et beaucoup d'études qui ont été faites aussi. Maintenant, c'est que petit à petit, vous voyez, maintenant, bon, bah, les personnes qui, justement, qui ont travaillé, qui étaient en contact avec l'amiante, c'est très difficile de se faire reconnaître comme maladie professionnelle. Les antennes aussi, c'est en train de prendre la même...
Tout comme le nucléaire.
Voilà,
c'est pareil. On a fait des essais, on disait aux gens, il faut juste tourner la tête, il ne faut pas regarder.
Non, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant.
Aujourd'hui, alors, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont défigurés.
76 morts dans la Drôme, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Alors après, il y a un moment donné, il y a un despair qui dit, oh ben oui, bon, on ne va pas dire 76, on va dire 16. Et ben moi, je regrette, 76 ou 16, c'est déjà trop. Même 16 personnes, même 3 personnes, c'est déjà trop.
Tout à l'heure que la mairie était neutre, en même temps elle n'est pas si neutre puisqu'elle s'est engagée, enfin elle s'est engagée au moins verbalement auprès des médias après le blocage de l'installation de la grue là, qu'il y ait une sorte de charte qui soit mise en place sur Saint-Étienne et tout ça. Est-ce que vous savez un peu où ça en est?
Je sais qu'il y avait déjà une date qui avait été fixée et finalement ça a été annulé. Je ne sais pas si elle a eu lieu, honnêtement. On ne l'a pas demandé non plus. Hein. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Moi, la question que j'ai posée, c'est charte, ok, mais c'est toujours pareil. Si c'est élu et puis juste les opérateurs, elle ne sert à rien, cette charte. Il faut qu'il y ait des associations qui sont indépendantes, des experts indépendants, donc qui font partie d'associations, ou pas, d'ailleurs, qui soient présents, parce que ça ne veut rien dire, sinon.
Vous n'avez jamais été invité à une réunion pour la charte, quoi?
Non.
Pour l'instant, le réseau, il est sur Claude Debussy, l'antenne relais est sur Claude Debussy. Donc, à partir du 30 juin, il va y avoir une démolition. Donc, cette démolition, il n'y aura plus de réseau. Donc, sur ce problème de réseau, il fallait trouver un moyen de transition. Donc, le moyen de transition était tout trouvé. Il y avait la moitié de l'installation qui était sur Loire Habitat. Donc, ils voulaient tout de suite nous le mettre. Et nous, ce qu'on a dit, non, on n'en veut pas. Absolument pas, on n'en veut pas. Donc, c'est ce qui relève justement sur cette réunion du conseil du quartier, c'est qu'on n'en veut pas. On ne veut pas de transition, même de 6 mois à 9 mois. Parce que le problème de transition entre 6 et 9 mois, surtout une fois que ça sera installé, ça sera fini. Ils ne voudront pas réenlever. Hein. Ça, c'est encore un autre coup. Donc, non, ouais, là.
Alors, la solution du pylône, justement, elle a été retenue. Donc, c'est un pylône qui va faire 45 mètres de hauteur et qui va être assez loin, plus de 100 mètres déjà des habitations. Donc, d'après l'experte du Mans, plus c'est haut et mieux c'est bon, puisque voilà. Les ondes ne descendent pas au rez-de-chaussée. Mais le problème, c'est qu'il faut faire tout un tas de démarches hein, administratives pour tout ce qui est réglementation du pylône, les autorisations.
Donc il y a des recours chaque fois de 2 mois et tout, donc ça peut durer, c'est voilà. Ce que je vous dis. Donc problème de transition là-dessus, donc ça peut durer 9 mois, 10 mois, si c'est pas plus. Hein. Alors là, il y en avait qui disaient justement que ça allait dénaturer un petit peu par rapport... Moi je regarde surtout le problème de santé, il y a des choses qui sont pas belles non plus. Hein.
Ah, parce que des pylônes, il y en a de partout. Hein. Vous allez dans toutes les campagnes, vous en voyez partout. Je veux dire, ne serait-ce que vous connaissez le Guizel, Bessot, je veux dire, c'est plein de pylônes. Et ça ne choque personne, parce que ces pylônes. Puis voilà, ça fait partie après de. C'est partie du site, quoi, je veux dire.
Vous attendez une réponse, en fait, là.
Oui, c'est ça. Le truc. Voilà, maintenant, on veut une réponse.
Bah, disons qu'on ne va pas. Aller de réunion en réunion sans qu'il y ait un aboutissement, quoi, je veux dire. Il faut absolument maintenant qu'on soit fixé. Voilà. Maintenant, il y a eu au départ, c'était pas prévu cette période de transition, maintenant on l'a proposé, donc on a dit qu'on n'était pas d'accord. Donc voilà, maintenant tout le monde sait qu'on n'est pas d'accord. Et voilà, donc on attend la réponse finale, quoi, je veux dire.
S'ils installent l'antenne, vous ferez quoi?
On rebloquera, c'est clair. On l'a dit, hein. On l'a dit le jour de...
Ah oui, on l'aura dit déjà.
On l'a fait une fois, on recommencera 2 fois, 3 fois, 4 fois, tout ça.
Je voulais que vous le redisiez, je trouvais ça important.
Non, mais malgré tout, on est quand même toujours mobilisés. Hein. S'il y a des gens qui montent sur le toit, bon, ben, les personnes, justement, se recontactent, leur disent, ben, tiens, il faut faire gaffe, il faut rester un petit peu, faire attention un petit peu, parce que bon...
Disons qu'on est aux aguets.
On est aux aguets, en fait, oui, mais c'est clair, hein.
On n'est pas tranquille, hein.
Non.
Je vous le dis, tant que c'est sur le toit, on n'est pas tranquille. Le jour où j'espère qu'elles n'y seront plus, là, on pourra dire ouf. Voilà.
On reviendra tranquille.
Voilà. Mais là, on vit... Moi, personnellement, je vis dans l'angoisse tous les jours.
Oui, c'est une épée de Damoclès, hein, comme j'ai dit.
Voilà, je veux dire, moi, personnellement, si ça reste sur le toit, je ne reste pas dans ce bâtiment, c'est clair.
Vous n'êtes pas les seuls habitants de Bar HLM à vous bagarrer, du coup, contre les antennes relais? Il y a d'autres cas à Montréal de...
Ben oui, il y a, la banane, ce qu'on appelle la banane, et puis la tour Guiton.
Ok, du coup, il y a deux autres cas comme ça. Et avant ça, vous m'aviez parlé aussi, il y avait la tour là, qui appartenait à Aliade.
Ah oui.
La tour Saint-Saëns.
Alors, cette tour, c'est pareil, hein, c'était un projet aussi, mais qui a été vite abandonné parce que les habitants sont mobilisés tout de suite avant que les grues installent quoi que ce soit. Là aussi, je pense qu'ils ont eu gain de cause parce qu'il y avait une école qui était à côté.
La loi, qu'est-ce qu'elle vous permet comme recours en tant que locataire par rapport à justement ces installations et tout ça? Il y a des possibilités ou...
Il n'y a pas de loi justement. C'est là-dessus qui compte. Il y a simplement le principe de précaution sur l'article 5 de la Constitution. Après, bon, bah, on peut prendre après les personnes justement pour se défendre par rapport à ces antennes relais. C'est simplement de prendre un avocat. Un avocat, ça coûte de l'argent en général. Bon, bah, c'est des personnes qui n'ont pas trop de moyens non plus. Hein. Donc c'est là-dessus qui compte aussi. Hein. Puis là, ils nous mettent un peu la pression de dire oh là là. Vous voulez empêcher les gens qui sont justement à Bouygues, il n'y aura plus de réseau. Alors là aussi, vous mettez la pression aussi là-dessus, mais nous, on a pour rien en fait. Hein. De dire, vous prenez vos responsabilités, c'est pas nous prendre nos responsabilités, c'est à eux, hein, c'est pas nous.
Depuis le début, il y en a beaucoup qui nous ont dit, dès qu'on a commencé à faire les pétitions, à se mobiliser, informer tout le monde nous a dit, oh là, mais ce que vous faites, ça sert à rien, de toute façon, vous verrez, ils vont nous mettre l'antenne sur tour. En attendant, quand même, depuis octobre, on est au mois de mars. Il y a la deuxième partie du matériel, donc les antennes, elles n'y sont toujours pas. Les travaux ont été arrêtés, donc c'est déjà, je ne dis pas qu'on a gagné, mais c'est déjà quand même bien, quoi. Je veux dire, on n'a pas fait ça, moi pour moi, on n'a pas fait ça pour rien. Quand bien même on finirait par les mettre sur le toit, je veux dire, au moins on a eu quand même, on a parlé de nous, on a fait exprès, hein, de toute façon, à nous mobiliser les médias aussi, hein, pour qu'on parle de nous, parce qu'on savait très bien, s'il n'y avait pas les médias, de toute façon, les antennes, ça ferait longtemps qu'elles seraient sur le toit, quoi, je veux dire. Voilà, mais voilà, moi en tout cas, tout le travail qu'on a fait, même si au pire les antennes finalement seront activées sur le toit, moi pour moi, on n'a pas fait tout ça pour rien.
Et au-delà du dessus de votre toit, là, est-ce que vous regardez plus loin sur d'autres toits d'immeubles?
Oui. C'est une obsession.
Oui, mais là, pas où je vais.
Ah oui, c'est une obsession. Ouais.
On regarde un petit peu. Ah,
et Dieu sait qu'il y en a. Ouais.
Personne, un voisin qui était justement à cette réunion, il leur expliquait justement en Espagne les installations, ils les mettaient au niveau du point de vue des pylônes d'électricité qu'on pouvait installer justement au lieu de mettre sur les toits des choses comme ça. Alors il y en a un, un élu, il a dit non, mais c'est pas possible. Alors il dit, mais pourquoi c'est pas possible? Il dit, les techniciens de France sont plus cons que les techniciens d'Espagne. Et finalement, ils n'ont pas voulu répondre.
Voilà, du coup un grand merci à Muriel et à Salima qui ont bien voulu répondre à nos questions et qui ont permis de faire cette interview qui illustre du coup la lutte des habitants et habitantes de la Barre Offenbach contre l'installation d'une antenne relais sur leur toit. Moi je voulais du coup leur souhaiter vraiment une belle fin à leur lutte en espérant que du coup le pylône, l'idée du pylône soit retenue. Et que du coup, les antennes relais de Montréno puissent toutes être centralisées sur ce pylône qui serait bien loin des habitations et que, du coup qui présenterait un risque bien moins important pour les habitants et habitantes de ce quartier. Je voulais aussi dire un autre truc, c'était que dans l'actualité, lundi 30 mars dernier, du coup, quelques jours après ce pseudo-Grenelle sur les antennes relais qui n'a pas eu lieu, il y a eu 5 procédures qui ont été engagées pour demander le démontage d'antennes relais. Alors, à Quimper, à Villeneuve-les-Avignon, à Nîmes et à Paris, l'association Robin des Toits a déposé plainte contre les opérateurs Orange, SFR, Bouygues pour faire déplacer des antennes relais. Et du coup, aussi rappeler que dernièrement, toujours en février, il y a 2 jugements qui ont condamné les opérateurs de téléphonie mobile Bouygues Télécom et SFR à démonter leurs antennes relais en application du principe de précaution. Voilà, tout ça pour dire en conclusion que tout n'est pas vain et qu'il y a des recours légaux possibles, que de plus en plus apparemment les tribunaux ont l'air d'accepter l'application du principe de précaution. Du coup, voilà, la lutte paye.
arrivée, voilà. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission numéro 0 sur Radio Dio. Donc, on va clore l'émission avec un long agenda. Donc, peut-être que si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle de Radio Dio, vous avez déjà pas mal entendu parler du festival Avatarium qui se déroule la semaine prochaine, donc du 6 au 11 avril, qui va être vachement bien. Donc, on va pas vous parler de tout parce que ça a déjà été fait dans d'autres émissions. Mais je vais quand même vous présenter la soirée que vos fidèles serviteurs et servitrices du numéro 0 et de Radio Dio vous proposent dans le cadre du festival Avatarium. Donc, c'est lundi 6 avril à 18h30 à la Bourse du Travail. Nous allons encore, mais ce n'est pas la dernière fois, parler du passage à la radio numérique terrestre. Donc, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà expliqué, je vais essayer de ne pas m'étaler aujourd'hui, mais c'est des lois qui viennent de tout en haut et puis qui viennent aussi pas mal de lobbies de multinationales et de grosses entreprises qui veulent se faire plein de thunes, qui fait que la diffusion des radios, donc pour l'instant, elle est par voie analogique et elle passerait en voie numérique. Donc ça institue un chamboulement technologique majeur et pour toutes les petites radios associatives, ça amène à des espèces de bouleversements fondamentaux et peut-être très graves, c'est-à-dire ça peut coûter très très cher aux radios déjà, donc c'est le problème principal, et puis ça peut être très dur à assumer techniquement, etc. Un autre des problèmes de ce passage au numérique, c'est que ça tombe un peu comme ça sur la tête des radios sans qu'elles aient vraiment eu leur mot à dire. Il y a quand même des réseaux de radios et des syndicats qui s'occupent aussi de la question. Donc il y a aussi un collectif de radios qui est contre le passage au numérique qui s'appelle Radio en lutte. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de rassembler divers gens qui ont divers points de vue, donc de ces syndicats, de ces réseaux de radio, de radio en lutte. Et puis surtout, on espère qu'il y aura beaucoup d'auditeurs, auditrices, animateurs, animatrices, etc., de Radio Dio, mais aussi des autres radios locales, voilà, pour pouvoir échanger des infos là-dessus, s'informer, vraiment débattre, etc., parce qu'on en a besoin. Et je voulais quand même juste faire un petit lien, c'était marrant, je me disais en écoutant l'interview précédente sur les antennes relais, c'est pas la même chose, mais pourtant on voit des liens, on parle de pylônes, de machin, tout ça, mais surtout on parle quand même, à mon avis, d'un progrès technologique ou d'un pseudo-progrès qui nous arrive par-dessus la tête, qui est surtout quand même là au service de gens qui veulent faire du pognon. Et c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. Voilà, donc bref, ça c'est pour annoncer la radio, la soirée sur la radio numérique qui a lieu lundi 6 avril, 18h30, Bourse du Travail de Saint-Étienne, cours Victor Hugo. Venez nombreux et nombreuses vous informer et débattre. Ensuite, dans le cadre du festival, il y aura la soirée frasque.
Du coup, le mardi dans le cadre du festival Avataria, soirée conférence à la dérive autour de, du coup, avec des gens, des frasques et la projection d'un film. Quelqu'un de vous qui a le goût d'en parler un peu plus?
Le film, c'est Yaka pas baiser de Carole Roussopoulos. Je sais qu'elle a déjà fait un autre film très intéressant qui s'appelait Debout, sur l'histoire du mouvement de libération des femmes. Je pense que ce film-là sera très intéressant aussi. Il parle plus de contraception, d'avortement, de sexualité.
Du coup, l'idée de ce moment, c'est de parler un petit peu d'avortement, contraception. La thématique du débat, c'est avorter sans entrave. Et ça se passe à la dérive, le mardi 7 avril, 18h30, avec des membres du Frasque.
À savoir que les deux soirées sont entrées libres, quoi. C'est gratuit.
Ouais.
Ouais. Et juste pour ajouter, les frasques qui sont invités, c'est un collectif de Grenoble. C'est, à mon avis, si je me souviens bien, c'est féministe pour la réappropriation de l'avortement, des sexualités, des contraceptions. Et c'est un assez gros collectif composé de personnes très variées qui se bougent pour l'avortement, mais de manière assez générale. Et entre autres contre la manière dont a été créé un nouvel hôpital à Grenoble, où on vous avait passé une interview, je ne sais pas si vous en souvenez. Et donc dans cet hôpital, et ben les femmes qui iront avorter, elles iront avorter juste à côté de la maternité où les petits bébés y naissent. Et puis le lieu où il y a l'avortement aura beaucoup moins de moyens que le reste, etc. Enfin, on voit en gros ce qui se profile, quoi. Donc elles pourront nous parler de tout ça. Ce sera bien.
Tiens Gilles, c'est un cambriolage. Tu débutes ta permanence avec. Regarde attentivement, ça a l'air de faire partie d'une série.
Bonjour Sophie, c'est l'officier de permanence. Il faut que tu te rendes sur les lieux du vol effraction de ce matin pour faire effectuer des constatations par une équipe de la police technique et scientifique.
Pendant qu'une équipe effectue les premières constatations, relevé des traces et indices, l'enquêteur recueille les témoignages et rend compte au procureur.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Je vous en prie, asseyez-vous.
Mon collègue m'a dit de passer vous voir parce qu'il pense que j'ai vu des éléments importants.
Mais écoutez, je vous en prie, allez-y.
Disons que d'habitude, sur le parking, il n'y a pas beaucoup de voitures, les gens vont travailler le matin, et là, sur la place 115, eh ben, la place était occupée, alors que le monsieur est parti travailler. Non. J'ai trouvé ça suspect et j'ai relevé le numéro d'immatriculation.
Donnez-moi ce numéro, madame.
Voilà.
Alors, je vais consulter le fichier national.
L'enquête n'est pas finie pour autant.
Avez-vous remarqué d'autres choses sur cette affaire?
Oui, j'ai vu un monsieur qui était en bas de l'immeuble, au coin, enfin, qui a fumé plusieurs cigarettes, qui est resté un bon moment.
Voilà une information à exploiter.
On termine les constatations de l'appartement, il n'y a pas de trace. Par contre, à l'endroit indiqué par la gardienne de l'immeuble, il y a effectivement un égo là où se tenait la personne suspecte.
Oui, monsieur le commissaire, c'est le point. Je vous informe que je viens de recevoir les résultats de la police technique et scientifique qui identifie l'individu qui est actuellement en garde à vue comme étant l'auteur des différents faits de vol et fraction commis sur notre circonscription.
Je voulais signer votre plainte là-bas. Je voulais signer votre plainte là-bas. En bas de la page.
Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors ça, c'était un petit... comment dire c'était un petit document que je vous ai ramené d'une réunion publique sur qui était hier, réunion publique de propagande organisée par le préfet dans le cadre des 22 réunions publiques pour la sécurité intérieure organisées dans tout le département de la Loire, animées par le préfet et toute une série de cravatés. L'ambiance du truc, c'était cravaté, flics, bailleurs sociaux qui parlent entre eux et qui parlent entre eux de liberté, sécurité. La thématique du forum, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, et que c'est vos libertés, votre sécurité, parlons-en ensemble. Oh. Alors moi, pourquoi je voulais vous passer ça et en parler, c'est que j'ai appris à ce moment-là qu'en fait, il y allait avoir une deuxième réunion, où je pense que ça pourrait être bien qu'on y aille à plein. Là, je fais un appel carrément par la radio. Elle se passe, c'est pour les quartiers sud. La première était pour les quartiers nord, la deuxième est pour les quartiers sud, mais je pense qu'on s'en fout, de toute façon, ils diront les mêmes conneries. C'est le 23 avril... entre 20h et 23h à la maison d'animation de la Métard. Je pense qu'il y aura à peu près le même tableau, des flics, des préfets. Et pour prendre un petit peu position quand même sur toute cette histoire-là de sécurité et de liberté, moi je trouve qu'en ce moment on parle un petit peu trop facilement de surveillance naturelle, de collaboration avec les forces de l'ordre, de discussions, de mise en commun avec les flics et de trucs comme ça. Et comme disait ma grand-mère, parler avec les flics, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors moi, contre tous ces appels à délation un peu discrets et ces trucs de incitation à boucave, eh ben, j'invite tout le monde du coup à aller faire chier et peut-être interrompre ce moment de débat démocratique le 23 avril à la maison d'animation de la Métard sur la sécurité et liberté. Bon, et ben, il est bientôt 13h ou bientôt 18h si vous écoutez la rediffusion de cette émission, puisque cette émission sera diffusée à 17h.
On se retrouve dans 2 semaines. N'oubliez pas, 17h30 aujourd'hui, manif en soutien à la grève à l'université, devant la fac.
D'accord. On se quitte sur un morceau de Monsieur Bidon, qui s'appelle « Première leçon de révisionnisme moderne ».
Bonne journée.
Eh bien, salut, et d'ici là, bonne chance.
À bientôt, faites attention à vous.
Bonjour, vous êtes bien chez Dieu le Père, et là je suis absent pour l'instant, mais n'hésitez pas à me laisser un message après la Bible sonore.
Si Marie avait eu son portable, elle aurait pu appeler son médecin, à qui serait venu en taxi à l'étable qu'elle n'accouche pas d'un mot crétin. Attila nous aurait transformé en grillade ou en garniture à pizza commandée sur leur nomade. Aurait-elle conquis l'Angleterre? Ah, si on lui avait refilé à Rouen un abonnement chez SFR. Serait-il roi de France sous son armure de fleurs de lys? Ah, continuerait-il sa décadence avec un pack itinéris?
Allô, ma belle, devine où est-ce que je t'appelle? Oui, je sais, j'ai vu l'heure. Aujourd'hui, j'ai la tête.
Fidèle à ses stratagèmes, Dieu seul sait si Bonaparte aurait pas pris Jérusalem rien qu'avec sa mobicarte.